Actu SF, les podcasts.
Bonjour et merci de soit sauter, soit reporter votre repas pour venir assister à cette rencontre et à ce dialogue, puisqu'on l'a conçu comme tel. Vous avez dû remarquer que par rapport au programme, ce n'est pas Gilles Francescano qui animera cette rencontre, mais la directrice artistique du festival, qui de temps en temps, quand il y a un imprévu, mais Gilles m'a prévenu à l'avance, donc il n'y a pas de souci, je le remplace donc. C'est un plaisir, ceci dit, puisque je découvre notre invité BD, avec qui j'étais en contact, mais par mail avant. Je n'avais jamais eu l'occasion de rencontrer. Vous avez bien compris les uns et les autres que le festival Imaginal est en train de s'ouvrir à la BD de façon plus significative. Alors, bien évidemment, ce n'est pas parce qu'on était contre, ce n'est pas parce qu'on sous-estimait la BD. Je précise pour ceux qui ont encore le moindre doute qu'à titre personnel, j'étais chroniqueuse de BD pour La Vie ouvrière à l'époque d'Angoulême, il y a une trentaine d'années. J'ai moins suivi ce qui s'est fait et je commence à m'y replonger aujourd'hui. Mais j'aime la bande dessinée et je considère que c'est vraiment évidemment une littérature à part entière, un art à part entière. Voilà, ça va sans dire, mais comme on dit, c'est encore mieux en le disant. Donc on va continuer à développer avec les auteurs qu'on aime, les illustrateurs qu'on aime, les dessinateurs de BD qu'on aime dans les années à venir. Autour de ce pôle BD, on a voulu dégager un espace spécifique où il y a de l'espace, il y a de la place, il y a du temps pour pouvoir dessiner, dédicacer. C'est quand même là aussi une rencontre particulière avec les auteurs. Voilà, Jean-Philippe Jaworski. Jean-Philippe Jaworski, donc vous êtes, vous, un habitué des Imaginales. Bon, certes, quand on vient de Nancy, on a moins de mérite. On n'a pas besoin de traverser la France ni de traverser l'Atlantique. Mais néanmoins, on vous a rencontré par hasard, comme toujours, dans un livre, un recueil de nouvelles. Lorsque j'ai lu la première nouvelle, j'ai donc dit que finalement j'allais vous inviter peut-être juste la journée, mais on n'avait plus de budget, plus d'hôtel, c'était trop tard. J'ai lu dans le train l'ensemble du roman, il restait une nouvelle, je l'ai rappelé pour dire bon, finalement on va vous trouver une nuit d'hôtel. J'ai fini le bouquin, j'ai dit allez, on vous en trouve deux, j'ai vu ça avec la ville, c'est bon. Et puis voilà, on a fait connaissance. Donc Jean-Philippe Jaworski est très vite devenu, puisqu'il avait gagné les guerres après, l'un de mes auteurs préférés. Pas que moi, c'est pas très original. Donc on est ravis qu'il soit là et qu'il soit aujourd'hui adapté en BD me laisse dire que c'est parti et que quelque part la question suivante qu'on se posera, mais on y viendra à la fin de cet entretien, ça pourrait être pourquoi pas une adaptation au cinéma ou une adaptation en série. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait qu'aux États-Unis ou dans les pays nordiques qu'on apprenne à faire des séries intelligentes de fantasy ou de science-fiction. Et je trouve que par rapport au budget, gagner la guerre, ce serait pas mal. Ça doit être jouable. Ça doit être jouable. On va déjà parler de la première adaptation, donc celle qu'on fait en BD. D'où c'est venu, Jean-Philippe Jaworski, cette idée d'adapter votre premier roman ? Tout le monde le sait, ce roman a gagné Jean-Philippe Jaworski le prix Imaginal. Je crois qu'il a été un des deux auteurs au cours de ces 17 années à avoir gagné pour un premier roman le prix Imaginal du meilleur roman français de fantasy. Il l'a regagné après, c'est très énervant pour ses collègues. Jean-Philippe Jaworski ensuite était le coup de cœur du festival, mon coup de cœur, clairement. Et là, il adapte une BD. Il est le scénariste.
Je ne suis pas le scénariste.
Enfin, pas scénariste. Conseiller plutôt sur l'adaptation. Ben justement, précisez bien les choses. En fait, il est conseiller à l'adaptation, qu'est-ce qu'on dit ? On présente ça comme ça.
Oui, moi je, comme le dit Fred, je considère que je suis consultant là, puisque, et je vais rapidement céder la parole sur Fred au niveau de l'origine du projet, parce qu'en fait, c'est Frédéric Jeunet qui m'a contacté en me proposant le projet de l'adaptation de la BD, qui m'en a convaincu. Moi, le projet en soi m'intéressait. Ensuite, le travail de Frédéric, le goût qu'il avait pour l'univers, sa connaissance de l'univers, l'énergie qui montrait d'entrée de jeu, l'enthousiasme qui montrait d'entrée de jeu pour un tel projet m'ont vraiment convaincu. Mais là, je vais laisser la parole à Frédéric parce que l'origine du projet d'adaptation, c'est vraiment Frédéric qui en est la source.
Frédéric Jeunet, donc je comprends bien, c'est vous qui avez eu l'idée d'adapter la bande dessinée de Jean-Philippe Jaworski, qui en avait parlé à Jean-Philippe. Et c'est ensuite seulement que vous avez contacté un éditeur. Ça s'est passé comment exactement ?
Alors, bonjour à tous d'abord. En fait, moi j'ai commencé la bande dessinée en faisant la série Samouraï. Et j'ai fait ça pendant 10 ans. Et j'avais toujours cette petite frustration de n'être que le dessinateur au service d'un scénario et avec un coloriste, etc. Et mon univers de prédilection, c'était, ça l'a toujours été depuis que je suis tout petit, ça a été la fantasy. Donc j'avais toujours ce vieux fantasme que je trimbalais, c'est d'avoir, d'être auteur complet d'une histoire de fantasy. Et puis un jour, j'ai lu en vacances Gagner la guerre, qu'on m'avait conseillé il y a des années. Et ça a été vraiment la révélation parce que ça rassemblait exactement tous les ingrédients, le ton, le type de narration, le type de personnage aussi. Parce que j'aime pas trop les personnages héroïques et parfaits et parfaitement lisses. J'aime bien les anti-héros. Et donc là, j'ai vraiment trouvé absolument tous les ingrédients que je voulais pour faire la fantasy. Et je me suis dit, ça sert à rien de créer un nouvel univers, de nouveaux personnages, une nouvelle intrigue, etc. Alors que ça existe, c'est déjà fort. Et ça rencontre absolument tous mes critères. Donc c'est pour ça que j'ai contacté à ce moment-là Jean-Philippe. En évoquant, en fait, au départ, d'abord d'adapter Mauvaise Donne, donc qui est la nouvelle qui précède le roman, et qu'on retrouve ici dans le tome 1. Et avec, éventuellement, si jamais ça fonctionne un petit peu, on adapterait, donc j'avais demandé un peu un droit de préférence pour adapter la suite, quoi. Et finalement, quand j'ai présenté, j'ai monté un petit projet, pour Mauvaise Donne, et chaque fois je présentais ce projet en disant c'est un one shot avec possibilité de suite sur le roman, et que j'expliquais un petit peu, je résumais ce qui se passait dans ce tome 1. Chaque fois que je rencontrais un éditeur, il me disait écoute, j'aime beaucoup, mais en fait ce que tu me racontes là, il faut en faire une série. Et chaque fois tous les éditeurs me disaient ça, donc finalement on a fait une série, et donc voilà la genèse, et puis jusqu'au moment de tomber sur l'éditeur qui est vraiment tombé amoureux de ce projet-là, et qui est Le Lombard. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc j'ai contacté Jean-François par Facebook, et Jean-Philippe par Facebook, et on a tout de suite accroché, et il a toujours tout de suite été enthousiaste sur ce projet.
J'ai eu l'occasion de regarder, évidemment, par rapport à d'autres auteurs emblématiques, y compris étrangers, des adaptations BD de romans de fantasy. Et je dois dire, désagréable, mais je n'ai pas été enthousiaste toujours. Et je ne suis pas la seule. Donc, quelque part, il y a toujours une inquiétude. Non pas une BD ou un film ou une série, ça ne peut pas être le roman, évidemment, ce n'est pas le même média. Mais quand même, on attend un minimum de choses et on espère ne pas être déçu. Et beaucoup de déceptions se sont faites sur des tentatives d'adapter pourtant de très belles séries de fantasy. Vous êtes évidemment au courant de ça, Jean-Philippe Jaworski. Ça ne vous a pas inquiété quand il vous a contacté, Frédéric Genet ?
Oui et non. Pardon. Oui et non. Oui, il y a toujours un risque que l'adaptation trahisse l'œuvre. D'un autre côté, l'adaptation aussi, c'est la garantie que l'œuvre va trouver une certaine autonomie. Et puis dans la mesure aussi où, alors là c'est un peu le prof de français qui parle, dans la mesure aussi où la réécriture, alors je parle en termes de réécriture littéraire, mais finalement une adaptation dans un autre art, la BD, le cinéma, c'est aussi une forme de réécriture. La réécriture participe à la dynamique d'un thème, d'un sujet, d'une histoire, d'un personnage. Je trouvais quand même la démarche intéressante. Maintenant, quand Frédéric m'a contacté, j'ai été voir son travail, j'ai discuté avec lui avant de donner mon feu vert. Ce qui montrait dans son travail, ce qu'il m'a dit aussi, sa connaissance de l'œuvre, son enthousiasme, son désir, parce qu'une des premières choses que tu m'as dites, c'était que tu étais très fan du bouquin et que tu voulais vraiment le restituer, quoi, en être au plus près. Tout ça, ça m'a incité à accepter. J'ajouterais une chose, même si, faute de temps, en fait, je suis moins bédéphile, j'étais très bédéphile étant jeune. D'une certaine façon, même si c'est très lointain, il y a une petite trace de ça dans le fait que Benvenuto lui-même est un artiste peintre raté. La séquence des cartons préparatoires à la fresque des trois peintres dans Gagner la guerre est aussi bien un hommage à l'art Renaissance que finalement à mon goût déchu pour le dessin. Donc la proposition de Fred d'adapter en BD me parlait énormément aussi, parce que finalement c'est un art pour lequel je ne suis pas doué, j'aurais aimé être doué, même en termes de scénario d'ailleurs, j'estime que j'ai absolument pas les compétences pour faire un scénario BD, parce que j'ai pas la concision du scénariste BD, mais il y a une circulation entre les arts qui fait qu'une réécriture BD, malgré les risques, bien sûr, mais finalement, même écrire un roman ou une nouvelle, de toute façon, il y a le risque que ça rate. Hein. Le risque est toujours présent, quoi qu'il en soit. Hein. Donc, pour l'autonomie que gagnait l'univers, la relecture que propose Frédéric, même si elle est finalement très très fidèle en fait au texte original, en raison aussi, en quelque sorte, de la nostalgie que j'ai pour une période où j'étais bédéphile et où j'aurais pu me rêver en scénariste BD, ce que je serais probablement jamais, c'était une espèce de compensation que Frédéric m'offrait. Et donc, j'étais vraiment partant. Hein.
Je voulais aussi savoir, hein, je pense que c'est un peu le cas du public, comment concrètement, Jean-Philippe Jaworski, vous êtes intervenu, parce que, je pense que Frédéric Genet rebondira, vous n'avez pas été scénariste et vous avez expliqué pourquoi. Je ne suis pas très surprise de vous entendre dire que vous avez du mal avec la concision.
À vous lire,
je crois qu'on est tous convaincus, mais bon, c'est pas grave. On peut être sur des séries au long cours et ne pas être verbeux. Voilà. Le compteur de concision, c'est pas verbeux quand on a du talent. Donc c'est pas un souci. Mais c'est vrai que pour faire du scénario BD, c'est un peu plus compliqué. Peut-être qu'aussi, Frédéric, vous aviez envie d'être seul aux commandes sur cette opération scénario et dessin.
Oui, c'est ça, mais comme je le disais là tout à l'heure, c'était une sorte d'ambition, de rêve personnel, c'est de faire un ouvrage dont je suis l'auteur complet. Alors ici, pas vraiment, parce que j'adapte quelque chose qui existe déjà, mais j'ai été vraiment seul aux commandes, et je dois dire que Jean-Philippe m'a laissé très très libre à ce niveau-là. Ceux qui auront lu la nouvelle et la bande dessinée pourront voir les petits éléments que j'ai rajoutés, les transformations que j'ai faites dans la nouvelle, justement pour l'adapter au médium de la bande dessinée, qui n'a pas du tout les mêmes critères que pour une nouvelle ou pour un roman. Une BD, ça doit être concis, ça doit être dynamique, ça doit être je bloque.
ça doit être aussi démonstratif, ce serait intéressant, par exemple.
Voilà, oui, ça doit être surtout évident, en fait. Chaque case doit porter un message bien précis. Et ça, c'est à la limite de la caricature, en fait, parce qu'on n'a pas des pages et des pages pour donner son idée. On a parfois juste une case, une bulle. Et il faut que tout ça passe là-dedans. Il faut aussi que le lecteur soit attentif. Il faut attirer son attention à certains endroits pour faire passer ce message.
Sans vouloir évidemment en révéler tout, sinon c'est pas amusant, y compris le lecteur de mauvaise donne, il va avoir envie de repérer justement ces petites différences. Peut-être en donner un exemple sans spoiler sauvagement.
Oui, dans la nouvelle mauvaise donne, il y a toute une partie qui concerne un flashback, en fait, qui concerne le passé du héros, où il était dans les phalanges et où il était au service de Léonide Ducator, qui à l'époque était podestat. Et en fait, ce passage est résumé, c'est un bref résumé de quelques pages dans la nouvelle. Et en fait, moi j'en ai fait un vrai passage qui raconte, qui vient rythmer tout le récit. Donc on commence par la première page, on est dans le flashback, ensuite on enchaîne avec le temps présent, et puis régulièrement ça vient ponctuer tout le récit jusqu'à trouver sa conclusion, en même temps que Benvenuto trouve sa conclusion à la fin de l'histoire. Donc ça donne vraiment le tempo sur toute la BD.
Qu'est-ce que vous en avez pensé, justement, vous, qui êtes l'écrivain ?
Moi, j'ai trouvé ça très, très intéressant, parce qu'une des premières choses que m'a dit Fred, c'est qu'il fallait vraiment un tempo différent pour la BD. Et effectivement, cet épisode du flashback, finalement, est assez concentré dans la BD, dans la nouvelle. La nouvelle, en gros, elle a trois mouvements. Ce qui arrive à Benvenuto quand son contrat dérape, cette remémoration de ce qui s'est déroulé dans son passé, et puis ensuite la suite du récit. Alors que Frédéric a pris le parti, en fait, d'alterner une petite séquence de flashback, puis l'action à Ciudadela, puis un nouvel élément du flashback, dans un montage qui est très cinématographique et qui est intéressant aussi sur le plan graphique, en ce sens que ça permet d'alterner les atmosphères. Il y a une atmosphère méditerranéenne et estivale à Ciudadela, une atmosphère continentale et hivernale au cours des flashbacks, et tout ça, ça va donner une dynamique d'ensemble à l'ensemble au récit dans la BD. L'histoire est la même, la présentation de la narration est différente, elle est plus cinématographique, ce qui va très bien avec le support image, et ça c'est un vrai travail de réorganisation de la narration qu'a fait Frédéric.
Comment être fidèle en trahissant un peu ?
C'est ça, et en fait c'est un exercice que j'avais l'habitude de faire avec mon scénariste sur la série Samouraï. On avait vraiment un travail de collaboration, c'est-à-dire que c'était vraiment lui le scénariste, mais il me laissait la liberté sur certaines séquences. Quand j'avais une idée bien précise pour ajouter des détails, ajouter de la personnalité, etc., il me laissait faire. Donc en fait, c'est un exercice que je fais depuis des années. Et donc en fait, c'est prendre une séquence, garder le début et la finalité et l'objectif de cette séquence, et puis remuer un petit peu tout ce qui est à l'intérieur, pour donner un petit peu ma patte, parce que j'avais pas non plus l'envie de faire simplement un résumé de la nouvelle. J'avais aussi l'envie de montrer un petit peu ma personnalité d'auteur et mon point de vue d'auteur dans cette BD.
Mais dites-moi, Jean-Philippe Jaworski, au début, conseiller, tout ça, ça, voilà, c'est important et tout. Et finalement, est-ce que, comme parfois Benvenuto, là, vous en rajoutez pas, vous poussez pas un peu du col? Vous avez vraiment été utile sur cette bande dessinée?
Oh, finalement, non, hein. Mais j'en profite.
Non, plus sérieusement, qu'elle a été votre travail de conseiller, entre guillemets, c'est pas un titre officiel, mais comment ça s'est passé la collaboration concrète, à part la discussion de départ que vous avez bien expliqué l'un et l'autre, comment s'est passé votre lien avec Frédéric, comment vous avez eu des retours, quelle a été la façon dont vous avez travaillé, je ne dis pas ensemble, mais vous êtes intervenu, vous avez fait des remarques. Voilà, on est intéressé, je vois bien, pour savoir ça, rentrer dans l'atelier.
Je vais répondre tout de suite, puis après je laisserai la parole à Frédéric, qui a quand même fait effectivement l'essentiel du travail. En fait, Frédéric m'a d'abord montré le storyboard, hein, si je me souviens bien. Storyboard qu'il avait intégralement fait, donc que j'ai lu, on en a discuté donc une première fois. Globalement, j'étais d'accord avec les choix vraiment que tu avais fait. Une fois donc que j'ai validé le storyboard, Frédéric a commencé les planches. Toutes les deux ou trois planches en fait. Alors souvent tu m'envoyais d'abord le crayonné en fait. Hein. Donc il m'envoyait le crayonné pour voir comment il était passé du storyboard au crayonné, c'est-à-dire à la planche dans ses grandes lignes. Puis ensuite, une fois que la planche était dessinée et ancrée, là tu me l'envoyais à nouveau hein, pour me demander mon avis sur le dessin, la phase finale du dessin. On discutait aussi de temps en temps sur les dialogues en fait, hein, parce que parfois tu avais des questions qui se posaient à toi en fait en cours d'établissement, soit du crayonné, soit de la planche, hein, sur ce qu'il fallait dire, ce qu'il fallait pas dire, comment l'organiser, est-ce qu'il fallait pas revenir rajouter quelque chose. Je pense aux premières planches en particulier, hein, mais ça tu pourras peut-être en parler. Ça a été aussi au niveau des couleurs en fait, hein. Tu m'as ensuite envoyé les planches quand tu commençais à les mettre en couleur, puisque Frédéric a aussi mis en couleur, et ça change profondément. Si vous avez eu l'occasion de comparer la version noir et blanc et la version couleur, la texture change profondément, en particulier parce que Frédéric a joué sur les couleurs pour restituer les différentes heures de la journée, ce qu'on ne perçoit pas dans la version noir et blanc, hein. Et ça donne vraiment une atmosphère particulière qui varie sur Ciudadela. Donc à chaque fois en fait, c'était des questions. Moi, sur quoi est-ce que je suis intervenu? On a parlé essentiellement des dialogues, parce que j'étais vraiment globalement d'accord avec tous tes choix narratifs, en fait. Hein. Sur les dialogues, tu m'as posé des questions. On a eu parfois des petits désaccords, mais souvent je te laissais en définitive, puisque c'était toi l'adaptateur, hein, la décision finale. Et puis, c'était en termes d'influence sur le plan architectural, sur le plan des costumes. Tu avais aussi des questions sur le physique des personnages, hein, parfois. Frédéric me posait des questions, puis j'essayais de lui apporter soit des sources, des sources visuelles, des sources d'inspiration, en particulier bon, pour l'architecture. Hein, c'était un dialogue. Je ne suis pas du tout le scénariste, hein, c'est vraiment Frédéric le scénariste, mais j'étais en quelque sorte une personne ressource vers laquelle tu pouvais te tourner quand un problème se posait, je pense.
C'est exactement ça, et en fait, quand j'ai adapté ça, c'était important dès le départ pour moi que chacun de mes choix soit validé par l'auteur. Parce que sinon, il fallait que j'ai un minimum de crédit. Et à partir du moment où Jean-Philippe était d'accord avec mes choix, ça me rassurait vraiment dans le chemin à prendre. Et alors aussi, le gros avantage d'être auteur complet d'un album, et c'est pourquoi je lui montrais chaque étape vraiment du travail, c'est qu'en fait, le travail progresse. Jean-Philippe a pu le constater d'étape en étape. Donc je lui ai déjà pas montré le scénario parce qu'en fait je l'écris pour moi. Donc il est prof de français, c'était bourré de fautes. C'était pas montrable. Et surtout, il n'y a pas de détails, c'est juste une suite de dialogues, etc., qui sont vaguement découpés en planches et en cases. Donc la première étape qu'il a vraiment vue, c'est le storyboard. Alors le storyboard, il y a eu 3 moutures d'affilée qu'on a recorrigées. Ensuite, au crayonné, la mise en page change complètement. Parce que mes storyboards sont pas montrables non plus, c'est des patates avec 3 dialogues. Et donc la bande dessinée évolue, même une fois qu'il y a l'ancrage, il y a encore des modifications sur les textes. Quand je retape les textes dans les bulles, il y a encore des modifications. Et puis il y avait le choix, par exemple, pour le flashback. Moi, je l'ai situé en hiver pour avoir un bon contrepoint sur l'ambiance estivale à Ciudadela. Et tout ça, c'est des choix que j'ai fait et que Jean-Philippe a dû valider.
Par exemple, pour le choix de la bataille hivernale, dans la nouvelle, la saison à laquelle a lieu le siège de Karlsbruck n'est pas précisée, en fait, hein, puisque Benvenuto est concentré essentiellement sur les opérations militaires, les opérations politiques. Là, il y avait un choix qui était graphique, hein, pour le coup, hein, qui permet un contraste fort, celui que j'évoquais tout à l'heure, hein, entre des pages lumineuses et des pages, certes blanches, mais beaucoup plus froides et en même temps beaucoup plus sombres, puisqu'on est en plein conflit. Hein.
Comment, Frédéric Genet, on construit une BD? Parce que, bon, voilà, je suis persuadé qu'il y a ici des amateurs de BD, mais il y a aussi des gens qui viennent parce que c'est l'adaptation d'un texte de Jean-Philippe Jaworski, et en fait, de tout un roman, une série qui va prendre naissance. Comment ça se passe très concrètement, le travail d'un dessinateur quand il adapte une série? Par exemple, on sait bien qu'on se fait une représentation mentale du héros et des personnages principaux. On se fait une représentation mentale plus ou moins précise de la ville quand on lit Jean-Philippe Jaworski. Et parfois, que ce soit en adaptation cinématographique ou en bande dessinée, on a pas nécessairement une déception, mais on ne la voyait pas comme ça, cette ville, on ne le voyait pas comme ça, ce personnage. Est-ce que vous avez déjà eu des premières réactions de lecteurs de Jean-Philippe Jaworski qui dit « Ah, c'est exactement ça » ou « Ah, j'aurais pas vu Benvenuto exactement comme ça ».
Alors j'ai vraiment eu les deux, mais d'une façon générale, c'était plutôt, j'avais plutôt tapé dans le mille. C'est-à-dire que quand j'ai lu le roman, les personnages se sont vraiment imposés à moi. Jean-Philippe décrit vraiment très très bien ses personnages, décrit très très bien les ambiances, les décors, etc. Donc l'image, en fait est très très précise. Il y a quelques personnages où moi-même j'ai été surpris, par exemple le sorcier Sassanos. En lisant une première fois le roman, je m'étais fait une image de ce personnage. Et puis au moment de l'aborder, j'ai relu le passage bien précis où il est décrit. Et je me suis dit, la sensation que j'ai eue, parce que parfois en lecture, tout le monde a ça ici, on lit quelque chose, ça laisse une sensation, ça laisse une texture, un sentiment. Et en fait, quand on relit les mots avec précision, c'est en fait pas vraiment ce qu'on s'était imaginé. Et donc pour le sorcier, c'est ce que j'avais eu. Donc quand j'ai relu ce passage, je me suis dit, c'est pas du tout ça que je m'étais imaginé. J'ai contacté Jean-Philippe en disant, c'est bien ça que tu as voulu dire. Et on a échangé des sources là-dessus. Et donc ce personnage-là, il y a eu un décalage entre l'image que je m'en étais faite et l'image qu'il y avait vraiment dans le roman. Mais sinon, d'une façon générale, tout le monde s'y est plus ou moins retrouvé, oui.
Comment travaille un auteur de bande dessinée lorsqu'il n'est pas le créateur du monde dans lequel il opère, des personnages sur lesquels il travaille, mais quand il travaille sur la création d'un autre? Quelle est sa part de création? C'est ça qui m'intéresse aussi.
Mais ici, j'ai la sensation que la part de création était assez énorme parce que c'est pas du tout le même médium. Donc maintenant, au moment de faire la bande dessinée, il faut représenter les choses, il faut les traduire. Une séquence qui se passe en 20 pages, il faut pouvoir la traduire peut-être en une page ou deux. Et donc, il faut choisir les petits moments, les petits mots qui correspondent bien pour faire passer le sentiment général. Et en fait, si j'ai adapté aussi ce roman, c'est parce que j'ai un extrêmement bon feeling de ce que j'ai lu. J'ai vraiment une affinité très particulière avec ce que j'ai lu. Il ne s'agit pas d'un éditeur qui a acheté une licence et qui a dit « Tiens, toi, tu es dessinateur, adapte ça, j'ai acheté les droits, voilà. »
Au niveau de l'appropriation, serait intéressant, l'appropriation qui est nécessaire pour transposer au médium, ce serait intéressant que tu reviennes sur ce que tu disais sur la difficulté de passer de la narration à la première personne, qui est celle de la nouvelle et du roman, à celle de la BD, qui est la troisième personne.
Oui, ça c'était vraiment le gros défi de cette adaptation. C'était donc tout le roman, et on suit les pensées de Benvenuto, on suit c'est un point de vue de narration subjective à la première personne. Et en bande dessinée, on ne peut pas faire ça. C'est beaucoup trop lourd, je ne peux pas mettre des phylactères où il est tout le temps en train de penser, où on est tout le temps en train de lire ce qu'il pense. Donc je dois, à ce moment-là, tout transformer, faire intervenir des personnages qui n'existent pas forcément, ou le faire parler avec certains protagonistes pour qu'ils traduisent les pensées qui sont révélées dans le roman. Il faut qu'on puisse les voir et voir son sentiment général et son point de vue, parce que c'est ça que je voulais aussi conserver ici, c'est que Benvenuto est quelqu'un de profondément cynique et assez distant par rapport au monde qu'il voit, et donc il a un point de vue très très fort, et je voulais garder ça, je voulais garder ce sentiment-là.
Si je peux ajouter quelque chose, d'une certaine façon d'ailleurs, la BD, dans certaines planches, dans les parties inventées par Frédéric, est plus fidèle à l'esprit du roman que les textes. Alors, je m'explique. Donc ça c'est l'adaptation de Mauvaise Donne, qui est une nouvelle que j'ai écrite d'abord sans avoir l'idée encore de reprendre le personnage de Benvenuto dans le roman qui deviendrait Gagner la guerre. Donc la nouvelle à l'origine avait son autonomie propre, ce qui fait que dans la nouvelle, en fait, il y a certains personnages qui n'apparaîtront que dans le roman. En particulier, alors pour ce qui est de personnages qui apparaissent dans la BD et qui ne sont pas présents dans la nouvelle, la fille du podestat, Clarissima. Et Frédéric m'a dit, ce serait bien quand même, dans la mesure où Benvenuto fréquente la famille du podestat, que Clarissima apparaisse dans la BD. Et j'ai trouvé que c'était une excellente idée, parce que même si elle est complètement marginale dans le fil de la BD, ça semble anecdotique, mais le personnage de la fille du podestat, qui prendra beaucoup d'importance dans Gagner la guerre, que je n'avais pas encore inventé donc, en écrivant la nouvelle, est déjà présente dans la BD. Alors on peut se dire que ça s'écarte du texte, mais en fait, c'est extrêmement fidèle à l'esprit de l'univers, puisqu'il va sans dire que dans la logique de l'univers, Clarissima est déjà présente au moment de l'action de Mauvaise Donne.
Oui, et en fait c'était important à partir du moment où l'éditeur avait décidé de faire vraiment toute une série et pas juste un one shot, c'était important d'installer déjà la suite, et comme on a assez peu de place en bande dessinée, il faut installer sur le long terme, voilà, surtout quand il y a des relations comme ça qui sont mises en place et qui ont des implications. Il y a des personnages qu'on va retrouver dans le tome 1 et 2 qui ont l'air complètement anecdotiques et qui vont avoir un impact très important sur la fin de la série. Et tout ça s'installe petit à petit dans la BD. Et donc il faut vraiment, il y a un gros travail en amont à ce niveau-là.
J'ai vu que visiblement, il y a l'exposition qui nous est arrivée, qui déjà dans le parc attire l'attention. D'ailleurs, moi, c'est là que je n'ai pas encore reçu la BD, ça ne saurait tarder, mais j'ai regardé les illustrations, j'ai regardé les premières planches, je me suis dit, ah ouais, quand même. Donc, premier contact, là aussi, j'ai réagi avec, au départ, de la méfiance. Bon, on va le faire venir, c'est intéressant, etc. Mais évidemment, je n'avais pas vu le travail, et donc, on se dit toujours, ce n'était pas prévu que ce soit moi qui anime, mais encore plus maintenant que je l'anime, je dis, ah ben c'est bien que je l'ai vu avant, parce qu'au moins, je sais à peu près de quoi il s'agit, et je suis à l'aise, parce que visiblement, c'est du chouette boulot, donc je suis impatiente de lire toute la BD. Mais Comment ça s'est fait avec le Lombard? Parce qu'on voit que les éditions de Lombard qui ont accepté le projet, qui ont été emballées, qui ont voulu faire une vraie série autour de ça, ont mis le paquet parce qu'ils font énormément de promos, ils le mettent en avant, ils nous ont contactés. Enfin, c'est eux qui ont été demandeurs au départ, vraiment. Et je me dis, ce n'est pas tous les éditeurs qui font le travail à ce niveau-là, en particulier en bande dessinée. J'en ai contacté plus d'un et je me suis rendu compte que certains d'entre eux en avaient en gros rien à faire de défendre leurs auteurs. Je ne citerai évidemment personne. Il y en a qui sont très motivés et le Lombard m'a apparu, je les découvre là, je les connais de réputation, mais je n'avais pas de contact direct avec eux, je les découvre comme extrêmement motivés, extrêmement proches de la défense des textes et des auteurs.
Oui, tout à fait, et en fait, c'est ce dont on discutait là tout à l'heure, c'est que en fait, on a eu la chance déjà de se rencontrer, de se retrouver sur ton travail, et qu'on ait cet enthousiasme qui fait un vrai échange et qui, je pense, arrive à faire un bon roman, je pense une bonne BD, enfin, en tout cas des dernières de ce qu'on m'en a dit. Et on a eu la chance aussi de tomber sur un éditeur qui, lui aussi, est tombé amoureux du roman, qui est tombé amoureux de mon dessin, parce que c'est la première fois que j'allais chez le Lombard, il ne me connaissait pas. Et donc on a cet éditeur qui est Gauthier Van Merbeek qui est vraiment à 200% derrière le projet et évidemment tout ça déteint sur l'équipe qui est en dessous de lui et qui communique vraiment son enthousiasme à ce niveau-là. Parce que c'est vrai qu'au niveau de l'édition, la plupart des éditeurs, il y a quand même une grosse partie, c'est beaucoup de la production de papier. Il faut reconnaître, il y a une sorte de dynamique en bande dessinée qui fait que en fait, les libraires ont droit à des retours, etc. Et donc, en fait, plus ils produisent, plus il y a une espèce de bulle financière qui s'auto-alimente avec les retours, les nouvelles commandes, etc. Et en fait, il y a un système purement économique qui est en place et que les éditeurs ne peuvent plus détruire à présent parce que sinon, ils vont faire faillite. Et donc, ils entretiennent comme ça. Il y a tout un tas de bandes dessinées qui sont juste là pour remplir les rayons. Quoi. C'est horrible ce que je dis, mais j'en ai fait les frais aussi au début de ma carrière. Et donc, ici, on a eu vraiment eu la chance d'avoir un éditeur qui est vraiment à fond derrière ce projet. Quoi.
Justement, votre précédent éditeur, qui vous ferait sans doute d'autres choses plus tard, mais il n'a pas été emballé par le projet? Il n'y a pas cru ou...
La démarche pour moi, ça faisait 10 ans que j'étais chez Soleil. Et une des premières démarches, si je faisais une autre série, c'était aussi de quitter cet éditeur. Pas parce que je m'entends pas bien avec lui ou quoi que ce soit, je m'entends toujours très très bien avec lui, mais c'est aussi simplement en tant que indépendant, j'ai besoin d'avoir mes œufs dans différents paniers. Et surtout, ça faisait 3-4 ans que je n'arrivais plus à négocier mes contrats, simplement parce que ça faisait 10 ans que j'étais dans la boîte et pour eux j'étais un auteur acquis, donc que je négocie ou pas, pour eux ça change rien parce que je ferai toujours la suite, etc., etc. Et donc voilà, pour un peu avoir des leviers pour d'autres négociations plus tard, il faut un peu changer de crémerie.
Ça renvoie à tout le débat sur la rémunération des auteurs, mais en festival, ça renvoie au débat sur les pourcentages, ça renvoie au départ sur le fait que les auteurs sont des artistes, ne sont pas nécessairement habitués à négocier, sur le fait que quand on est dans une maison d'édition, que ce soit de la BD ou de la littérature d'imaginaire, on a aussi des rapports parce qu'on aime notre boulot, on est des passionnés tous, même si on est devenus des professionnels, et que quelque part, on a du mal à les négocier. On n'est pas habitué. C'est pour ça d'ailleurs que je pense à la présidente de la Charte, Samantha Bailly, que j'ai discuté tout à l'heure, qui a fini par prendre un agent. Un agent dont c'est le métier, qui négocie ses contrats, elle se chargeant avec ses directeurs littéraires de son travail artistique.
Oui, c'est un vrai métier en soi. Et la majorité des auteurs, ils sont un peu dans leur coin, ils osent pas trop, ils connaissent pas trop les droits, etc. Quand ils reçoivent un contrat, ils sont très contents, ils le signent et puis ils commencent directement à dessiner parce que c'est ça qu'ils veulent faire. Et en fait, si je suis dans la bande dessinée, c'est parce que ça fonctionne. Parce que si ça ne fonctionne pas, que je n'arrive pas à en vivre, je refais un autre métier. Et donc, moi, je suis un peu une crapule à ce niveau-là. C'est que je vais vraiment voir l'éditeur et je négocie vraiment. Mon scénariste avait peur, même à certains, pour la série Samouraï, à certains moments, il avait peur parce que certaines négociations prenaient 6 mois. Parce que voilà, j'étais pas d'accord avec certaines choses et que ça passait, pour moi ça passait pas quoi. Donc voilà, je suis peut-être une exception à ce niveau-là. En tout cas, il faut absolument, s'il y a des auteurs ici, il faut négocier petit à petit. Évidemment, ça ne se fait pas d'un seul coup, mais petit à petit, il faut négocier les clauses les unes après les autres au fur et à mesure de votre carrière. Ça, c'est super important, quoi.
Je rentre évidemment pas dans le détail en 246, mais je l'ai peut-être remarqué, j'étais en train de dire à quel point c'est un passionnant échange sur ces questions-là entre vous. C'est aussi une façon d'attirer l'attention sur la bande dessinée. Je préciser l'éditeur et sur Jean-Philippe, on n'a pas besoin, mais sur ce projet par contre. Voilà, c'est mon premier tweet pendant un débat, je ne suis pas habitué. Mais c'est important aussi, j'ai compris, de faire connaître en direct parfois ce qui se fait, de donner envie, de dire, même si vous n'êtes pas là, bah, regardez ce qui se fait, allez, en fait ça le dit, allez lire, allez acheter. Quoi. Voilà, je découvre des médias que je ne connaissais pas il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, et des choses dont je vois à la fois les inconvénients, on a l'impression que je ne suis pas à l'écoute des auteurs, mais bien sûr que si. Et c'est une façon aussi de dire, mais c'est important de communiquer, de faire savoir ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire d'échanger autour d'une bande dessinée et d'une œuvre. Parfois, les gens de ma génération ne comprennent pas ça. Ah, qu'est-ce que c'est que ces gens mal élevés, etc. Non, c'est une façon de faire et de partager les œuvres. Revenons au fond. Combien de volumes prévus, c'est déjà réglé?
Alors, c'est pratiquement réglé. Donc là, j'ai fait un découpage de tout le roman. Donc maintenant, je vais aborder, à partir du tome 2, vraiment l'adaptation propre du roman Gagner la guerre. Et a priori, la série, y compris cet album-ci, comptera entre 4 ou 5 albums. Et donc, en fait, c'est en discussion avec l'éditeur en fonction de ce qu'on veut faire. Si on veut faire moins d'albums plus épais ou un peu plus d'albums, mais où on prend le temps aussi de soigner certains détails. Et je suis plus pour la seconde option, donc on verra ce que l'avenir nous dira, ces 4 ou 5 albums.
Bien, en tout cas, on espère un beau départ pour ce premier volume. Disiez tout à l'heure que vous n'aimez pas les personnages lisses, les héros gnangnang, plan-plan, etc. C'est quand même un vrai salopard, celui-là, que vous avez choisi.
Oui, mais c'est le plus beau des salopards. Non, j'ai vraiment, je suis rentré en phase avec l'esprit non seulement de cet anti-héros, mais aussi de tous les petits personnages qui gravitent autour de lui. Donc voilà, il y a le Podesta, il y a Sassanos, il y a Clarissima, et tous ces personnages-là, je les trouvais très fins. C'est pas les personnages qu'on va pouvoir lire simplement en les voyant. Ah oui, lui il est comme ça. Ah oui, lui c'est le barbare un peu bête. Ah, lui c'est voilà, c'est le magicien intelligent et
cliché. Quoi.
Voilà, c'est ça.
On peut faire des archétypes, mais pas de clichés quand on a un peu l'envie de faire partager quelque chose.
Voilà, et je pense que c'est important. En tout cas, mais ça c'est vraiment ma vision personnelle. Quand je regarde un film, une série, que je lis un roman, etc. J'ai besoin de voir de la personnalité. J'ai besoin de voir la personnalité des auteurs qui sont derrière, la personnalité des personnages, des acteurs, s'il s'agit d'un film ou quoi. Et on ne peut plus, maintenant, toutes les histoires ont été racontées, vraiment toutes. Si on réduit toutes les histoires à simplement un script, on va dire, oui, mais ça a déjà été vu là, etc. Et donc, je pense, le seul objectif, maintenant, qu'on peut avoir dans une narration, c'est de donner une personnalité à ce script. Voilà, c'est pour moi c'est vraiment ce qui est intéressant dans une histoire, c'est l'angle qui est donné par l'auteur à quelque chose qui finalement a toujours déjà été vu depuis le temps qu'on raconte des histoires.
Frédéric Genest, c'est la première fois que vous adaptez une nouvelle, en l'occurrence là, et un roman comme ça directement?
Oui, c'est la première. Oui.
D'habitude, vous créez vous-même l'ensemble, le scénario, etc., l'idée.
Non. C'est vraiment donc j'étais avant sur Samouraï, je n'étais que dessinateur.
C'est ce que j'avais vu. Jean-Philippe Jaworski, ça vous donne envie de faire d'autres choses? On parlait au début de... Moi, je le dis parce que ça commence à être débattu, par exemple, d'auteurs, et je trouve qu'il est temps qu'on fasse comprendre un certain nombre de gens dans les médias, d'autres médias, les télévisions, enfin, qui sont tellement amenés à Arte et d'autres à acheter des très chouettes séries, d'ailleurs, mais pas capables de produire des séries françaises. On commence à voir des débuts de choses qui ne sont pas totalement indignes. Voilà comment j'ai formulé. Quelques petits trépaliums, t'es pas inintéressant, mais t'es pas encore complètement, voilà, c'est pas encore au niveau, on dit que ça balbutie un peu, mais la série télé pour gagner la guerre, moi tout de suite j'y ai pensé. Il faut du storyboard aussi, est-ce que vous êtes prêts, si un jour les choses pouvaient déboucher, ça vous plairait de travailler ensemble sur une série télé adaptée de gagner la guerre?
Alors adapté en série télé, oui, ça m'intéresserait. Je Alors, ça m'intéresse. Je tends juste le dos sur toutes les contraintes qui peuvent exister dans un système de production et qui peuvent amener en fait à dénaturer l'esprit d'une œuvre. Je parle bien de l'esprit parce qu'il y aura nécessairement adaptation au format. Hein. Gagner la guerre, lu, c'est 35 heures de lecture. Donc, il est inconcevable même d'avoir... oui, Jean-Christophe Lebert.
Les gens qui lisent lentement quand même.
Ah non, Jean-Christophe Lebert qui a donc lu la version audio de Gagner la guerre, donc qui la lit, alors certes, comme un acteur, hein, mais qui la lit quand même, ça fait 35 heures. Enfin, bon, des acteurs jouent aussi dans une série, donc il serait inconcevable d'avoir 35 heures, même pour une série. Donc ça nécessiterait de toute manière des aménagements. Alors là j'ai rien contre, hein, le travail d'adaptation, il peut même être très intéressant, la preuve. Hein. Ce qui me ferait un peu peur, c'est que finalement, il y aurait tant d'acteurs qui interviennent avec des moyens différents qu'ils en amènent à détourner complètement l'esprit du récit. Travailler avec Fred, pourquoi pas si tu te sentais capable de travailler pour la production télé.
Je ne pense pas que je me lancerais dans ce genre d'expérience. Il y a trop d'intervenants et donc trop de compromis à faire et ça ne me plairait pas.
T'as payé plus.
Ouais, tu vois, tant qu'on vit, c'est bon. Hein. Pas besoin de plus d'argent. Je suis paresseux.
Ça doit être un univers fascinant quand même de conseils. Quand on voit Game of Thrones, il y a peut-être des compromis. C'est quand même une série extrêmement réussie. Quand on voit l'adaptation.
Mais c'est une machinerie tellement énorme. Alors, que finalement, quelle est la part créative là-dedans?
J'ai déjà reçu des propositions de boîtes de production, pas forcément des grosses boîtes de production, mais des propositions qui étaient enthousiastes, hein, qui étaient assez sérieuses. Moi, ce qui m'avait gêné et ce qui m'a poussé à remettre ma décision jusqu'au moment où finalement j'ai écarté, c'est une question de propriété intellectuelle. Et Martin lui-même a été victime de ce système-là. C'est que très souvent, le contrat qui est proposé pour une adaptation ne porte pas seulement sur le texte à adapter, mais portera sur l'univers et sur ses dérivés et sur des spin-offs et sur la suite potentielle. Bon, j'ai déjà eu des propositions où je me suis rendu compte que finalement, toute une équipe allait se mettre à travailler sur l'univers du Vieux Royaume et qu'il y a un moment donné où il y a un certain nombre de choses qui allaient m'échapper. Alors certes, je suis très casse-pied pour le public parce que j'écris lentement. En plus, j'écris sur un autre cycle en ce moment et ce que je note dans la préface de cette BD est tout à fait juste. Hein. Il y a la coterie de Benvenuto qui me harcèle pour le retrouver. Mais il n'empêche que j'ai un arc narratif qui est complet, j'ai un certain nombre d'un arc narratif qui va très très loin, hein. Un certain nombre d'intentions, une esthétique, et y a certains contrats de production qui amènent à se dessaisir en fait, de sa propriété intellectuelle. Et qui peut déboucher sur quelque chose que finalement le créateur initial ne contrôle plus du tout. Alors ça c'est aussi un des risques. Hein. Autant je suis moi tout à fait disposé à une adaptation sous différents formats. L'adaptation oui, le risque de perte en fait de maîtrise de l'univers, ça non.
J'en reviens à la remarque que je faisais tout à l'heure. Peut-être nous faut-il pour ce genre de projet des agents. Pour protéger avec les avocats à la clé. On travaille avec des pros et des pros retors parfois. Hein. Bon, je ne parle pas des gens passionnés qui bossent aussi dans l'univers de la télé, il y en a, hein, à croire. Il y a des gens qui aiment ça, faire créer. Mais je pense qu'en effet, là, on a affaire à autre chose que les éditeurs qui carottent quelques milliers d'exemplaires discrètement. Ça arrive, hein, dans des grandes maisons en général.
Oui. Oui, tout à fait. C'est vraiment, à ce niveau-là, négocier un contrat, c'est vraiment un métier en soi. C'est pas un auteur dans son coin, ça va forcément lui échapper.
Un dernier mot, puisqu'on va arriver à la fin de notre café littéraire, et vous connaissez la règle du jeu aux imaginales, toutes les heures, un nouveau café littéraire, une nouvelle table ronde, une nouvelle rencontre. Là, c'était une rencontre à deux voix. J'ai trouvé que moi, on apprenait déjà des choses. C'est encore à effleurer, mais évidemment, on va à la fois lire la bande dessinée, et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, et puis on va se retrouver. Je crois que Frédéric, c'est pas encore un engagement public, mais en tout cas, mon invitation est déjà publique.
Oui, oui. Mais j'ai été vraiment ravi de participer à cette table ronde, participer aux Imaginales, d'avoir été invité. J'aurais souhaité venir tout le week-end. Bon, voilà, ça ne s'est pas bien goupillé au niveau de l'agenda, mais je pense que si ça se goupille bien l'année prochaine, je reviendrai, oui, sans doute.
Ce sera avec plaisir, en tout cas.
Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? Parce que moi, quand vous veniez me faire signer la BD, ce qui est un peu une imposture, puisque finalement, ce n'est pas moi qui l'ai scénarisé, j'avais régulièrement des questions en fait, qui étaient plutôt adressées à Fred.
Normalement, dans les cafés littéraires, on n'a pas le droit, mais on va faire une exception parce que c'est plutôt un entretien à deux. Ce n'est pas tout à fait pareil. Donc, allez, je prends deux questions rapides et puis après, il va falloir laisser la place au suivant. S'il y a deux questions rapides, je les prends. Personne ? On a... Ah, une. Alors, ce sera mieux avec le micro. Ouais. Sinon, ou alors peut-être une voix un peu forte qui porte, ça devrait aller.
Ouais, donc, j'ai adoré la BD, j'ai adoré le roman. Tout le monde juste, ce serait bien dessus.
Et ben voilà, hein, c'est ce qui est présent dans la BD. Hein.
C'est pas une question, c'est une déclaration d'amour, là.
Il y aura une suite. En tout cas, pour la BD, ça, c'est sûr. Mais pour le roman...
En ce qui concerne le roman, une fois que j'en aurai terminé pour l'instant avec le roman en cours, qui est donc la troisième et dernière partie de Chasse Royale dans le cycle Roi du Monde, que normalement, je devrais terminer d'ici la fin de l'année, qui sera, si tout se passe bien, publié début 2019, je compte revenir dans le Vieux Royaume, pas à Ciudadela, dans le duché voisin, dans le duché de Bromael, deux ans à peu près après l'action de gagner la guerre, avec un récit qui est à la fois un hommage et un détournement du roman de chevalerie, donc qui mettra en scène beaucoup d'aristocrates, de nobles de Bromael, mais avec une intervention de la diplomatie ciudadienne, et dans l'eau il y a peut-être un diplomate un peu particulier qui pourrait pointer le bout de sa saltrogne.
Frédéric Genet, Jean-Philippe Jaworski, un grand merci pour cet échange. Bravo pour ce travail en collaboration, même si ce n'est pas au scénario, en tout cas au conseiller de l'ombre. Et bravo bien sûr à Frédéric Genet. Il y avait longtemps qu'une adaptation d'un roman que j'avais aimé, même si je ne l'ai pas encore lu, j'ai vu les planches, ça m'a donné une idée, donné l'impression que j'entrais chez des amis. C'est important. Quand on rentre dans un livre, une bande dessinée ou une adaptation télé, si on se dit que c'est réussi, on se dit on est chez des amis. Et les amis, évidemment, ce sont les artistes sans qui il n'y aurait pas de festival. Merci à eux.
Merci pour tout.